Je propose que nous lisions le chapitre 6 du livre des Actes. Or, en ces jours-là, le nombre des disciples se multipliant, il s'éleva un murmure des hellénistes contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans le service journalier. Et les 12, ayant appelé la multitude des disciples, dirent: il ne convient pas que, laissant la parole de Dieu, nous servions aux tables. Jetez donc les yeux, frères, sur cet homme d'entre vous, qui est un bon témoignage, plein de l'Esprit Saint et de sagesse, que nous établirons sur cette affaire. Et pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. Et ce discours plut à toute la multitude. Et ils choisirent Étienne, homme plein de foi et de l'Esprit Saint, et Philippe, et Procore, et Nicanor, et Timon, et Parménas, et Nicolas, prosélytes d'Antioche, qu'ils présentèrent aux apôtres. Et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. Et la parole de Dieu croissait, et le nombre des disciples se multipliait beaucoup dans Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Or Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait parmi le peuple des prodiges et de grands miracles. Et quelques-uns de la synagogue, appelés des Libertins, et des Cyrénéens, et des Alexandrins, et de ceux de Cilicie et d'Asie, se levèrent, disputant contre Étienne. Et ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subornèrent des hommes qui disaient: nous l'avons ouï, proférant des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils soulevèrent le peuple et les anciens et les scribes, et tombant sur lui, ils l'enlevèrent et l'amenèrent devant le Sanhédrin. Ils présentèrent de faux témoins qui disaient: cet homme ne cesse pas de proférer des paroles contre le saint lieu et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que ce Jésus, le Nazaréen, détruira ce lieu-ci et changera les coutumes que Moïse nous a enseignées. Et tous ceux qui étaient assis dans le Sanhédrin, ayant leurs yeux arrêtés sur lui, virent son visage comme le visage d'un ange. Et puis, à la fin du chapitre 7, au verset 51, Jean de col roide et un circoncis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours à l'Esprit Saint, comme vos pères, vous aussi. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui ont prédit la venue du juste, lequel maintenant, vous avez livré et mis à mort, vous qui avez reçu la loi par la disposition des anges et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces choses, ils frémissaient de rage dans leur cœur et ils grinçaient les dents contre lui, mais lui étant plein de l'Esprit Saint, ayant les yeux attachés sur le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu, et il dit: voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme, debout, à la droite de Dieu. Et criant à haute voix, ils bouchèrent leurs oreilles, et d'un commun accord, se précipitèrent sur lui, et l'ayant poussé hors de la ville, ils le lapidaient, et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul, et ils lapidaient Étienne qui priait et disait: « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Et s'étant mis à genoux, il cria à haute voix: « Seigneur, ne leur impute point ce péché. » Et quand il eut dit cela, il s'endormit, et Saul consentait à sa mort. Encore quelques versets au chapitre 22 du même livre. Acte 22 au verset 12. Et un certain Ananias, homme pieux selon la loi, et qui avait un bon témoignage de tous les Juifs qui demeuraient là, venant vers moi, se tenant là, me dit « Saul, frère, recouvre la vue. » Et sur l'heure, levant les yeux, moi, je le vis. Et il dit « Le Dieu de nos pères t'a choisi d'avance pour connaître sa volonté et pour voir le juste et entendre une voix de sa bouche. » Car tu lui seras témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé et te lave de tes péchés, invoquant son nom. Or, quand je fus de retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, il m'arriva d'être en extase et de le voir me disant, hâte-toi et sors au plus tôt de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage à mon égard. Et moi je dis, Seigneur, ils savent que je m'étais en prison et que je battais dans les synagogues ceux qui croient en toi. Et lorsque le sang d'Étienne, ton témoin, fut répandu, moi-même aussi j'étais présent et consentant, et je gardais les vêtements de ceux qui le tuaient, et il me dit, va, car je t'enverrai au loin vers les nations. On aime toujours revenir à ce début du livre des Actes. C'est tellement rafraîchissant de voir la libre action de l'Esprit de Dieu qui agissait ainsi librement, qui agissait avec puissance et qui produisait cette merveille que la parole de Dieu croissait, que le nombre des croyants se multipliait à Jérusalem et dans tous les alentours. À Antioche de Syrie aussi, partout, où l'assemblée, où les témoignages à la vérité étaient rendus par les apôtres ou par les serviteurs qui avaient dû fuir parce qu'ils étaient persécutés, et bien partout, l'Esprit de Dieu agissait avec puissance et les assemblées croissaient. Croissaient en nombre peut-être, mais croissait aussi, et c'est peut-être ce qui est plus important, elle croissait spirituellement. On peut voir les deux acceptions de ce mot, n'est-ce pas, quand on voit par exemple au verset 7 de notre chapitre 6, que la parole de Dieu croissait. Et ensuite il est dit, le nombre des disciples se multipliait beaucoup dans Jérusalem. Ce livre des Actes, donc, est très rafraîchissant pour nos cœurs de croyants. Bien sûr, on est là au début de l'existence de l'Église. Nous, maintenant, nous sommes là à l'autre bout de l'histoire de l'Église. Nous sommes à la fin de l'histoire de l'Église. Et il y a cette injonction qui est faite à Sardes, sauf erreur, dans l'Apocalypse. Tiens ferme ce que tu as. Tiens ferme ce que tu as, et aussi affermis ce qui reste et qui s'en va mourir. Que le Seigneur nous accorde d'être fidèles. Nous ne sommes pas dans un temps où se produisent une multitude de miracles, où se produisent des conversions par milliers, comme on voit au début du livre des Actes, en tout cas pas dans nos régions, peut-être ailleurs. Un frère, l'autre jour à Vergès, nous disait, c'est extraordinaire, ici, on ne voit pas un accroissement dans les assemblées. Mais c'est un frère qui connaissait bien Madagascar et qui me disait, à Madagascar, on donne la Bible et puis on attend et on voit le Seigneur qui manifeste des fruits, mais sans qu'on ait rien dit, sans qu'on ait rien fait, la parole de Dieu croît, la parole de Dieu se multiplie. Oui, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui nous est demandé à nous? C'est certainement d'être des témoins du Christ Jésus, certainement d'être des porteurs de la bonne nouvelle, mais c'est aussi que nous soyons fermes dans ce que nous avons reçu. Nous avons tellement reçu. Quoi, pour ce qui me concerne, n'est-ce pas, tout ce que nous avons reçu de nos frères, en France, en Suisse, ailleurs, en Allemagne, tout ce que nous avons reçu de nos frères qui nous ont enseigné la parole, eh bien, que le Seigneur nous accorde de garder ces choses dans nos cœurs et de les rappeler aussi aux générations qui nous suivent, à nos enfants, à nos petits-enfants, que nous puissions être des canaux de bénédiction. L'essentiel, ce n'est pas d'apporter un nouveau courant d'eau, mais l'essentiel, c'est que la source, notre cœur, soit propre pour que de l'eau fraîche, pour que de l'eau désaltérante, de l'eau pure, puisse être ainsi répandue autour de nous. Nous avons dans ce chapitre 6 l'histoire d'Étienne. Nous avons peut-être remarqué cette expression au chapitre 22, cette expression qui est donnée à propos d'Étienne, pas grand-chose. Il n'est pas redit tout ce qui est dit ici au chapitre 6 et au chapitre 7. Il est dit simplement « Étienne, ton témoin ». C'est magnifique, n'est-ce pas? Pas besoin de faire un panégyrique d'un serviteur, mais simplement « Étienne, ton témoin ». S'il pouvait être dit de cela, de chacun de nous, frères et sœurs, âgés, moins âgés, « Étienne, ton témoin ». Quel titre de gloire de pouvoir être ainsi appelé un témoin du Christ Jésus. Alors, il y a un moment difficile, il y a eu au début du chapitre 5, il y a eu un moment difficile avec le mensonge d'Ananias et Saphira. On dira que c'était un demi-mensonge, n'est-ce pas, dans l'histoire d'Ananias et Saphira. Mais, attention, ça n'existe pas dans la parole, on ne voit jamais cette idée d'un demi-mensonge. Il y a la vérité et il y a le mensonge. Et dans l'affaire d'Ananias et Saphira, l'apôtre Pierre dit bien, vous avez menti à l'Esprit Saint. Ils avaient donné une partie de la fortune qu'ils avaient. Une partie, ben c'était bien, c'est une partie. Puis le reste, on n'a pas besoin de dire ce qu'on en fait. On dit qu'on donne tout, mais on n'a pas tout donné. Mais ça ne fait rien. Ça, c'est un demi-mensonge. Et un demi-mensonge, c'est un mensonge. Prenons garde aussi dans notre témoignage, dans ce monde, n'est-ce pas? Il y a la vérité et il y a l'erreur. Il y a la vérité et il y a le mensonge. Mais il n'y a pas de chose, il n'y a pas de milieu. Et que le Seigneur nous aide, n'est-ce pas, à marcher chacun dans notre vie quotidienne, dans un chemin de lumière et dans un chemin de droiture. La droiture autour de nous, dans le monde professionnel, dans la vie sociale, dans la vie économique, elle n'est pas toujours là. Et c'est peut-être un témoignage qui nous est demandé comme croyants de marcher dans un chemin de droiture. Il y a un passage qui dit dans l'Ancien Testament, « L'Éternel aime la droiture ». Alors voilà, la question d'Ananias et Saphira est réglée, et il y a une nouvelle épreuve qui arrive dans l'Assemblée. C'est au chapitre 6, cette fois ce n'est pas un mensonge, cette fois c'est des murmures. Et simplement en passant, que dit la parole à propos des murmures? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui est dit à propos des murmures? Jamais. On voit au chapitre 16 du livre de l'Exode, quand la manne est donnée, eh bien, il est dit que le peuple, je ne sais pas combien de fois il est dit, le peuple a murmuré, le peuple a murmuré, le peuple murmura. Et Moïse doit dire au peuple, ce n'est pas contre moi et contre Aaron et moi que vous avez murmuré, mais c'est contre l'Éternel. Là aussi, c'est quelque chose contre lequel on doit être mis en garde, non pas seulement de marcher dans un chemin de droiture devant Dieu et devant les hommes, mais aussi que le Seigneur nous donne de nous garde des murmures. On se plaint parce que ceci, parce que cela. Que le Seigneur nous aide par la puissance de son esprit à ne pas être des murmurateurs. En Corinthiens 10, il est rappelé dans toute l'histoire d'Israël, dans le premier paragraphe d'un Corinthiens 10, il est parlé de ceux-ci murmurèrent contre l'Éternel. Et l'Éternel envoie un châtiment, pas parce qu'ils avaient menti, mais parce qu'ils avaient murmuré. Et puis dans l'épître de Jude, il y a des tas de passages qui parlent des murmures. Il y a un passage, je crois, dans l'épître aux Philippiens qui dit « Ne murmurez pas les uns contre les autres, frères. Ne murmurez pas les uns contre les autres. » Combien cela, ça nous arrive facilement dans une vie d'assemblée de murmurer. « Ah, celui-là, il a fait ci, celui-là, il a dit ça, celle-ci, pourquoi elle fait comme ça ?» On murmure, l'apôtre le dit clairement, « Ne murmurez pas les uns contre les autres, frères. » Et puis, je parlais de l'épître de Jude. Dans l'épître de Jude, il y a deux catégories de gens auxquels Jude s'adresse. Il y a ceux qu'on voit sous le nom de « ceux-ci », et il y a ceux que l'on voit sous le nom de « bien-aimés ». Il y a ces deux classes d'hommes, deux classes qui sont bien représentées, « ceux-ci » et « bien-aimés ». Et quand il est dit « ceux-ci », il est dit à propos, il y a beaucoup de choses qui sont dites à propos de « ceux-ci », mais il est dit « ce sont des murmurateurs ». Des murmurateurs. Ce n'est pas un compliment que le Saint-Esprit adresse à ceux-ci qui sont des murmurateurs. Donc la parole nous met en garde. Nous savons ce que sont nos pauvres cœurs, de toujours murmurer, souvent murmurer. Que le Seigneur nous garde, nous donne de prouver ce que l'apôtre Paul appelle dans l'Épître à Timothée ce contentement. Étant content de ce que nous avons. C'est tout un exercice de foi, n'est-ce pas? Parce que naturellement, nous sommes portés à murmurer, à nous plaindre. Et l'apôtre Paul est là, nous donne un exemple. Il était content de ce qu'il avait, content des circonstances que le Seigneur permettait pour lui. Est-ce que cela peut monter dans nos cœurs d'une manière naturelle? Aucunement, aucunement, ça va pas possible. Il faut là l'action de la parole, il faut là l'action du Saint-Esprit, pour que nous apprenions à réagir comme l'apôtre Paul, à nous exprimer comme l'apôtre Paul. Alors là, il y avait ce murmure qui s'était élevé entre deux groupes de personnes dans cette assemblée à Jérusalem, ceux que la parole appelle ici les hellénistes, et puis un autre groupe qui s'appelait les Hébreux. Alors, qui étaient les hellénistes, qui étaient les Hébreux? Les hellénistes, c'était des Juifs. Les Hébreux, c'était des Juifs. C'est tous des Juifs, ils habitent à Jérusalem. Les hellénistes, c'était des Juifs, mais qui avaient grandi dans un monde grec, et puis qui parlaient grec. Hélénistes, ça a donné le mot Hélène, les Grecs. En grec, hélénistes, ça veut dire les Grecs. Alors, il y avait d'un côté ces Juifs qui étaient des hellénistes, qui étaient donc des Grecs, qui n'habitaient pas à Jérusalem, qui habitaient ailleurs, ou qui avaient habité ailleurs, et qui se trouvaient là maintenant, vivant à Jérusalem. Et de l'autre côté, il y avait les Hébreux, qui étaient des vrais Juifs, si l'on peut dire. Des vrais Juifs qui avaient vécu à Jérusalem, qui avaient grandi à Jérusalem. Et voilà, il y avait ces deux groupes de personnes qui étaient là, qui se retrouvaient représentés dans l'assemblée à Jérusalem, les hellénistes et les Hébreux. Et alors, on dira, mais c'est un détail, qu'est-ce qu'il y avait? Pourquoi est-ce qu'ils murmurent les uns contre les autres? Pourquoi est-ce que les hellénistes murmurent contre les Hébreux? Ben voilà, leurs veuves, et la situation des veuves à l'époque, c'était autre chose que celle d'aujourd'hui, matériellement parlant. Personne ne prenait soin d'elles, il fallait qu'elles se débrouillent de A jusqu'à Z. Alors, ces veuves étaient négligées dans le service journalier. Alors, qu'est-ce que c'était que ce service journalier? Peut-être simplement de la nourriture qu'on apportait pour ces veuves, pour qu'elles aient quelque chose à manger pendant leur journée. Ce qui serait souligné par ce servir aux tables, dont il est question plus loin. Il ne convient pas que, laissant la parole de Dieu, nous servions aux tables. Alors, voilà, il y avait les apôtres qui étaient là, les 12 apôtres qui étaient là. Et ils ne pouvaient pas s'occuper de tout. Ils ne pouvaient pas s'occuper, c'est ce qu'ils disent là, ils ne pouvaient pas s'occuper du service de la parole, et ils ne pouvaient pas s'occuper en même temps des tâches matérielles qui se trouvent toujours liées à l'existence d'une assemblée locale. Que ce soit la question de la collecte, que ce soit la question de la distribution de la scène au moment du culte, que ce soit la question de rendre propre le local pour chaque réunion. Voilà, il y a quantité de tâches qui sont là, qui font partie, qui sont des services qui ont un grand prix devant Dieu. Souvenons-nous de ce qui est dit dans Romains 16, dernier chapitre. Phoebé, notre sœur. Ce n'est pas Phoebé, la petite concierge, c'est Phoebé, notre sœur. Et qu'est-ce qu'il est dit de Phoebé? Elle est servante de l'assemblée qui est à Sancrée. Un titre merveilleux, n'est-ce pas? Servante de l'assemblée. C'est Pétale qui faisait le ménage dans le couloir, dans le local. Et dans le couloir, et dans les sanitaires. C'est peut-être elle qui faisait tout ce travail ingrat. Mais aucun signe péjoratif de la part, aucun signe de mépris de la part de l'apôtre. Notre Phoebé, notre sœur, qui est servante de l'assemblée qui est à Sancrée. Et puis il est ajouté encore tout ce en quoi elle était utile, pas dans le détail, mais c'est mentionné quand même, en quoi elle était utile à l'apôtre. Donc, toutes ces tâches qui pourraient paraître un peu méprisantes, moi, je ne veux quand même pas faire ça, non. Avec l'éducation que j'ai reçue, avec les études que j'ai faites, avec le métier que j'exerce, je ne vais quand même pas me consacrer à faire ce travail de nettoyage. Non, l'échelle des valeurs selon Dieu n'est pas du tout la même que l'échelle des valeurs selon les hommes. Et nous devons faire bien attention que dans les assemblées, il ne s'instaure pas ce même système de valeurs qui a cours devant les hommes. Nous sommes là devant Dieu, et tous les services sont extrêmement précieux au cœur du Seigneur Jésus. Le frère qui présente la parole, le frère qui fait des visites comme pasteur, le frère qui évangélise, qui est doué pour évangéliser, c'est des services qui sont selon Dieu, qui sont mentionnés dans la parole, mais tous ces services matériels, comme Phoebé pouvait l'exercer à Sancrée, ont aussi leur valeur. Alors, c'est donc le problème est réglé. Les apôtres disent on ne peut pas tout faire, on ne peut pas en même temps servir aux tables et continuer le service de la prière et de la parole, donc il faut qu'on fasse autrement. Et alors les 12 appellent la multitude, c'est-à-dire l'assemblée. Il ne convient pas que laissant la parole de Dieu nous servions table. Et 7 hommes sont choisis. Et on peut remarquer quand même que les noms des 7 hommes, ils ne sont pas donnés pour rien. On pourrait dire simplement, il y a 7 hommes qui ont été choisis, puis on leur a dit de faire ce travail. Non. Ils sont tous notés. Puis qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qu'on remarque quand on les lit tous, ces noms? Qu'on commence par Étienne, c'est le premier qui est mentionné. Étienne, Philippe, Procor, etc. C'est tous des noms grecs. Tous des noms à consonance grecque. Donc, c'est les hellénistes qui ont choisi les serviteurs. C'est eux qui murmuraient, mais c'est eux qui ont choisi les serviteurs qui allaient servir aux tables. Ce n'est pas les Hébreux. Les Hébreux ont dit, bon, ben d'accord, mais taisez-vous, on va se débrouiller, c'est nous qui allons régler le problème, parce qu'on est de Jérusalem, on est des Hébreux, oh là là, attention, ne touchez pas à notre prestige. Non, les hellénistes, allez-y, proposez des noms, ensuite on les propose aux apôtres, les apôtres sont tout à fait d'accord, ils présentèrent aux apôtres, après avoir prié, ils leur imposèrent les mains, c'est-à-dire ils leur donnèrent ce qu'on appellerait aujourd'hui la main d'association. Ils étaient absolument d'accord avec ces hommes qui étaient choisis. Et ces hommes qui étaient choisis, ils ont été donc établis sur cette affaire, et les apôtres continuaient donc dans le service de la prière, verset 4, « Nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. » Et tout le monde était content. Ce discours plut à toute la multitude. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Quand les choses se font dans la dépendance du Seigneur, sous le regard de Dieu, les choses s'aplanissent, il n'y a plus de murmures, les choses sont réglées. Combien, n'est-ce pas, on aimerait cela dans la vie de nos assemblées, des assemblées de Dieu aujourd'hui, pas de nos assemblées, mais dans la vie des assemblées de Dieu aujourd'hui. Une difficulté, elle est réglée, on continue. et la bénédiction de Dieu, elle peut être goûtée. Il n'y a pas d'autre chemin, n'est-ce pas? Les difficultés, on sait maintenant, on a assez, n'est-ce pas, dans les assemblées, de ces histoires qui durent depuis des années, qui n'ont jamais été réglées, et puis qui sont toujours un frein dans le développement spirituel d'une assemblée locale. Que le Seigneur nous aide, n'est-ce pas, à suivre ces préceptes qui sont très clairs. Les choses sont réglées. Le problème d'Ananias et Saphira a été réglé. Comment? Par la mort. Bon, il fallait en arriver là. Le problème des murmures a été réglé, non pas par la mort, mais d'une manière tout à fait correcte et d'une manière tout à fait amicale, je dirais. Mais ce n'était pas n'importe qui, notez ces hommes. Hein. Ce n'était pas n'importe qui. Ils choisirent Étienne, homme plein de foi et de l'esprit. Et d'abord au verset 3, « Jetez donc les yeux, frères, sur cet homme d'entre vous qui est un bon témoignage, plein de l'Esprit Saint et de sagesse, que nous établirons sur cette affaire. » Le service aux tables, le service matériel dans l'assemblée requiert aussi une marche personnelle des serviteurs qui soit digne du Seigneur. On remarque, durant un passage dans l'Épître à Timothée, 1er Épître à Timothée, au chapitre 3 de la 1er Épître à Timothée, dans le premier paragraphe, il est parlé des anciens, des surveillants. Et dans le deuxième paragraphe, il est dit « De même, il faut que les serviteurs soient graves, non doubles en parole, non adonnés à beaucoup de vin, non avides d'un gain honteux, gardant le mystère de la foi dans une conscience pure, et que ceux-ci aussi soient premièrement mis à l'épreuve, ensuite qu'ils servent, étant trouvés irréprochables. De même que les femmes soient graves, donc les femmes des serviteurs, soit grave, non médisante, sobre, fidèle en toutes choses, que les serviteurs soient mariés d'une seule femme, conduisant bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui ont bien servi acquièrent un bon degré pour eux et une grande hardiesse dans la foi qui est dans le Christ Jésus. » Donc ici, les serviteurs, dans cet alinéa des chapitres, des versets 8 à 13, c'est les serviteurs comme Phoebé, enfin, Phoebé est une sœur, mais les serviteurs, ici, c'est les serviteurs qui peuvent servir aux tables, par exemple, dont il est parlé dans notre chapitre 6. Donc c'est un encouragement aussi pour nous, n'est-ce pas ? On ne peut pas vivre une vie de chrétien n'importe comment, et puis ensuite dire, ben moi je vais m'occuper de, je me propose pour m'occuper de ceci ou de cela, dans le service aux tables ou dans le service matériel dans l'assemblée locale. Le Seigneur veut aussi cette gravité, ce sérieux, cette droiture, non double en parole, hein, cette droiture, cette générosité, non avide d'un gain honteux, et des dispositions morales requises pour accomplir le service dans le cadre de l'Assemblée. Service aussi modeste apparemment soit-il. Alors au verset 8, il y a Étienne. On reparle d'Étienne. Donc il avait été choisi pour servir aux tables, mais on voit qu'il n'a pas occupé cette place pendant longtemps, puisqu'il a été appelé à un autre service. Et c'est ce que nous avons dans la fin du chapitre 6, au chapitre 7 en particulier. Mais il y a là ce verset 7 qui est là au milieu. La parole de Dieu croissait, le nombre des disciples se multipliait beaucoup dans Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Et on voit constamment, on pourrait chercher et trouver certainement dans les chapitres précédents aussi, cet accroissement qui est permis à 3000 âmes. Ensuite, il est parlé de 5000 âmes qui viennent au Seigneur. Et puis, les assemblées étaient en paix, les assemblées se développaient. comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tout est en ordre, eh bien, la bénédiction de Dieu peut venir, ainsi peut s'étendre sur les assemblées. Et au verset 8, l'histoire d'Étienne reprend. Donc il est dit qu'il était plein de grâce et de puissance. Auparavant, il avait été dit de lui au verset 5 qu'il était plein de foi et de l'Esprit Saint. Il était plein de grâce et de puissance, est-il dit. Il faisait parmi le peuple des prodiges et de grands miracles. Et alors il y a ceux qui se dressent contre lui, quelques-uns de la synagogue appelée des libertins. Donc s'il est parlé de synagogue, c'est qu'il y a des juifs. Et quelques-uns de la synagogue, donc quelques-uns des juifs, appelés des libertins, et des cyrénéens, et des alexandrins, et de ceux de Cilicie et d'Asie, se levèrent disputant contre Étienne. Disputant contre Étienne. Alors qui étaient ces libertins? Aujourd'hui, c'est un nom un peu spécial quand on dit que quelqu'un s'adonne au libertinage ou que c'est un libertin. C'est une conception d'aujourd'hui. Mais à ce moment-là, les libertins, on voit dans la note qu'on pourrait dire aussi des affranchis. C'était des juifs qui avaient été faits prisonniers par les armées romaines lors de batailles précédentes et qui avaient été emmenés à Rome comme prisonniers. Et là, au bout de 2 ans, ils avaient été libérés, ils avaient été affranchis. Et c'était des juifs, donc, qui étaient là maintenant à Jérusalem, après avoir été libérés de leur prison romaine, et ils étaient là, et on les avait appelés les libertins, les affranchis. Donc ils formaient cette synagogue des libertins. Alors comment est-ce qu'il faut comprendre ce passage? Est-ce que c'est la synagogue appelée des libertins, la synagogue des cyrénéens, la synagogue des alexandrins, la synagogue de ceux de Cilicie, la synagogue de ceux d'Asie qui se levèrent? C'est possible. On voyait l'autre jour en passant devant la synagogue ici à Strasbourg qu'il y avait des juifs qui se réunissent selon certains principes, selon certains rites, et puis peut-être dans le même bâtiment, mais dans la salle d'à côté, il y a des juifs qui n'ont pas les mêmes rites, qui n'ont pas les mêmes principes, mais qui sont quand même de la synagogue, qui sont quand même des juifs. Alors, est-ce qu'il y avait autant de tendances, ou bien est-ce qu'il faut comprendre qu'il y avait la synagogue des libertins, et puis il y avait des gens de Cyrène, des gens d'Alexandrie, etc., qui se sont levés pour disputer? Ça, je ne saurais dire. De toute façon, ces libertins, donc, c'était des juifs. Les cyrénéens, c'était des juifs de Cyrène. La Cyrène, c'était une partie de la Libye actuelle, donc sur le nord, la côte nord de l'Afrique. Et puis, il y avait les alexandrins, Alexandrie, la grande ville d'Égypte. Et puis, il y avait ceux de Cilicie. Quelle était la grande ville de Cilicie? On le voit plus loin dans le livre des Actes. C'était Tarse. D'où était originaire l'apôtre Paul, Saul de Tarse. Donc il venait de Cilicie, et probablement, en lisant ce passage, et en lisant ce qui est dit à la fin du chapitre 7, et au début du chapitre 8, on peut penser que parmi ceux de Cilicie qui disputaient avec Étienne, il y avait justement Saul de Tarse, parce que c'était un homme, un érudit, c'était un savant, Saul de Tarse. Il venait de Tarse, qui était, comme il le dit plus loin, que c'était une ville qui n'était pas sans renom. C'était une grande ville à l'époque, Tarse de Cilicie. Donc c'était quelqu'un de tout à fait connu dans le monde juif. Et puis ceux d'Asie, l'Asie du temps des Romains, c'était Éphèse, et c'était pas l'Asie d'aujourd'hui. Même pas l'Asie mineure d'aujourd'hui, c'était l'Asie dont la capitale était la grande ville d'Éphèse. Alors on les comprend, n'est-ce pas? C'était des juifs. Ils avaient vécu à Rome, ils avaient vécu à Cyrène, ils avaient vécu à Alexandrie, ils avaient vécu en Cilicie, ils avaient vécu en Asie, ils se retrouvaient là à Jérusalem, mais dans leur passé, de toute leur force, ils avaient maintenu la foi juive. Ils avaient maintenu les rites juifs. Ils étaient perdus au milieu de ces nations environnantes du pays d'Israël. Et puis, ils étaient là, ils s'étaient cramponnés, si l'on peut dire, à la loi juive. Et puis de voir que maintenant, il y avait quelqu'un comme Étienne qui venait leur dire que c'était tout faux, ils avaient quand même de la peine à avaler ça, à croire ça. Mais, voilà, on peut les comprendre dans un certain sens, mais en attendant, ils se sont trouvés ennemis de la croix de Christ. Ils se sont trouvés ennemis d'Étienne qui leur annonçait l'évangile, qui leur annonçait la parole de Dieu. Ils se levèrent et disputant contre Étienne. Et ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit par lequel ils parlaient, donc par lequel Étienne parlait. Alors ils subornèrent des hommes. Ça, c'est un verbe, je ne sais pas si vous l'utilisez beaucoup pendant vos journées, suborner. Suborner, qu'est-ce que ça veut dire? Ils subornèrent des hommes. Bien, quand on regarde un dictionnaire, on voit que ça veut dire inciter à donner des faux témoignages, un faux témoignage. Et c'est bien ce qu'on voit dans la suite. Ils subornèrent des hommes qui disaient, nous l'avons oui, entendu, proférant des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Bon. On serait plutôt attendu à ce qu'ils disent, qu'ils proféraient des paroles blasphématoires contre Dieu et contre Moïse. Mais pour eux, pour ces Juifs, la loi de Moïse, c'était plus important que ce que Dieu disait. Contre Moïse d'abord, contre Dieu ensuite. Et ils soulevèrent le peuple et les anciens et les scribes. Et tombant sur lui, ils l'enlevèrent et l'emmenèrent devant le Sanhédrin. Quelle expression, tombant sur lui. Ce n'était même pas un piège sournois qu'il lui avait tendu, mais c'était, il tombe dessus, comme s'il voulait le ravir, comme s'il voulait l'enlever. Il lui tombe dessus et il l'enlève et l'emmène devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était le tribunal juif composé de 70 juges, si on peut dire. Et les débats étaient menés par le 71e, qui était le souverain sacrificateur. Pour ça qu'au chapitre 1, au verset 7, on voit le souverain sacrificateur, donc Caïphe qui était là, le souverain sacrificateur prend la parole et qui dit « Ces choses donc sont-elles ainsi ?» Et il donne la parole à Étienne. Alors, donc il présente de faux témoins. Et cet homme, il dit, cet homme ne cesse pas de proférer des paroles contre le saint lieu et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que ce Jésus, le Nazaréen, détruira ce lieu-ci et changera les coutumes que Moïse nous a enseignées. Voilà, c'était faux, c'était des mensonges, tout ce qui était dit là. Mais c'était surtout la question, il détruira le saint lieu. Qu'il allait détruire le saint lieu, c'est bien ce que le Seigneur avait dit au début de l'évangile de Jean. Il avait dit qu'il pouvait détruire le temple et qu'en 3 jours il le rebâtirait. J'ai juste vérifié le passage. Détruisez, Jésus répondit et leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Jean 2, verset 19. Et les Juifs donc dirent, on a été 46 ans à bâtir ce temple et toi tu le relèveras en 3 jours. Mais lui parlait du temple de son corps. Et lors donc qu'il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc c'est les mêmes accusations. Les faux témoins, autant quand c'est le Seigneur qui passe devant le Sanhédrin, qu'il y a quelques jours que le Seigneur Jésus a passé devant le Sanhédrin par rapport à ce temps d'Étienne. Il y a quelques jours que le Seigneur Jésus a été mis en jugement devant le Sanhédrin. Eh bien, les faux témoins qui se sont levés, On voit ça dans Matthieu 26, sauf erreur. Les faux témoins qui se sont levés, ils rendent exactement ce faux témoignage de la destruction du temple, des trois jours, etc. Ils se servent de ce même faux témoignage pour condamner le Seigneur. Et alors tous ceux qui étaient assis au verset 15, tous ceux qui étaient assis dans le Sanhédrin, ayant leurs yeux arrêtés sur lui, donc sur Étienne, virent son visage comme le visage d'un ange. C'est merveilleux cette expression. C'est merveilleux. Ils virent son visage comme le visage d'un ange. On pense bien sûr à ce qui est arrivé à Moïse. Quand il sortait de la tente d'assignation, il avait son visage qui rayonnait. Pourquoi est-ce que son visage rayonnait? Bien, il est dit, dans l'Exode, il est dit, parce qu'il avait parlé avec lui. Et lui, c'est Dieu. Le visage de Moïse rayonnait parce qu'il avait parlé avec lui. Et dans la deuxième épître aux Corinthiens, ce passage qu'on connaît bien, deux Corinthiens 3, verset 18, « Or nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. » Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. Je me souviens d'un frère qui avait médité sur ce verset, il nous avait dit, cette parole qui m'est toujours restée, sont-ce des mots ou sont-ce des réalités? Ce sont, disait-il, ce sont des réalités plus tangibles que les choses qui nous entourent. Souvent, on pourrait lire ces versets en disant, bon, ça arrivait peut-être à l'apôtre Paul, mais nous, ben voilà, ce sont des choses contemplant à face découverte la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. C'est bien ce que, dans l'Ancien Testament, on a l'exemple de Moïse, dont le visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Et puis ici, on a l'exemple d'Étienne, dans le Nouveau Testament. Son visage, il vire son visage comme le visage d'un ange. Le Seigneur nous accorde... Surtout que, juste une pensée, Moïse ne voyait pas que son visage rayonnait. Il n'y avait pas de miroir à l'époque. Donc il ne voyait pas que son visage rayonnait. Étienne, il ne savait pas que son visage avait l'apparence de celui d'un ange. C'est la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu qui produisait cela sur le visage de ses fidèles. Alors dans le chapitre 7, on ne va pas méditer tout ce merveilleux discours d'Étienne. Tout le chapitre 7, c'est le discours qu'Étienne a tenu devant ces 71 personnes qui composaient le Sanhédrin. Et puis il évoque tout le passé. Il y a sauf erreur 7 personnages. 7 serviteurs de Dieu qui sont mentionnés depuis Abraham jusqu'à Salomon, qui sont mentionnés, et puis tout d'un coup, on ne comprend pas bien pourquoi, sans s'énerver, n'est-ce pas, Étienne raconte toute cette histoire passée du peuple d'Israël, il la raconte étape après étape, en montrant que chaque fois que Dieu avait donné quelque chose, eh bien, il y avait un comportement négatif du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Et puis, tout d'un coup, au verset 51, le ton change. Le ton paisible qu'Étienne avait utilisé jusque-là, tout d'un coup, il interpelle ses contradicteurs dans le Sanhédrin. Mais rendez compte, cet homme qui était seul, là, seul, il n'y avait pas ses amis qui étaient assis à côté, il était seul devant 71 personnes, dont le souverain sacrificateur qui était là, et Et devant ces 71 personnes, il parle. Et il parle pour la gloire de Dieu. Dans un discours que nous n'aurions jamais pu tenir, il fallait que ce soit véritablement le Saint-Esprit qui le conduise. Il était plein d'esprit, plein de l'Esprit Saint et de puissance, plein de grâce et de puissance. On l'a lu dans ce chapitre 6. Alors le ton change et il s'adresse directement à ses conducteurs du peuple. Peut-être est-ce qu'il a vu des gestes d'impatience parmi ses auditeurs. Il s'est dit, bon, on ne sait pas, mais Jean de Colroide est un circoncis de cœur et d'oreille. Vous résistez toujours à l'Esprit Saint, comme vos pères, vous aussi. Donc les pères dont il a parlé dans les versets précédents. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui ont prédit la venue du juste, lequel maintenant vous, vous avez livré et mis à mort, vous qui avez reçu la loi par la disposition des anges et qui ne l'avez point gardée. 3 points de suspension. Donc on voit bien qu'Étienne a été interrompu et comme il lui était tombé dessus, n'est-ce pas, comme on l'a vu dans un verset précédent, ils lui tombèrent dessus, tombant sur lui, au verset 12 du chapitre 6, et bien là, d'un coup, ils l'interrompent, ils grincent, ils frémissaient de rage dans leur cœur, ils grinçaient les dents contre lui, et ils le prennent et ils vont le lapider. Et là, de nouveau, n'est-ce pas, quel bel exemple, quel témoignage Étienne a rendu devant ses 70 conseillers, ses 70 juges. Ils le mènent hors de la ville, comme le Seigneur a été crucifié hors du camp, hors de la ville. Ils le lapidaient. Ils lapidaient Étienne, verset 50, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit, comme le Seigneur Jésus avait dit sur la croix, dans cette première parole, il avait dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Étienne dit, Seigneur Jésus, non, il dit, ne leur impute point ce péché. Et comme dans sa dernière parole sur la croix, le Seigneur a dit, aussi Père, entre tes mains, je remets mon esprit, il dit de la même manière au verset 59, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et quand il lui dit cela, il s'endormit. C'est beau, n'est-ce pas, ce terme. Il s'endormit. Il n'est pas dit qu'il est mort, mais il s'endormit. Comme dans l'Épître aux Thessaloniciens, on trouve cette belle expression, n'est-ce pas, qu'on trouve dans différentes parts de décès. Endormi par Jésus. Endormi par Jésus. La mort d'un croyant, c'est un sommeil. Il s'endort en Jésus, ou il s'endort par Jésus. Eh bien, d'Étienne, il est dit ici, quand il lui dit cela, il s'endormit. Et Saül consentait à sa mort. Donc, il était là. Il avait été là, probablement, parmi ceux de Cilicie, au verset 9, pour disputer contre Étienne. Et là, il était là. Il consentait à la mort d'Étienne. Donc, lui-même ne jetait pas ses cailloux pour lapider serviteur fidèle, mais il était d'accord que les autres le fassent. Il avait peut-être même donné l'ordre pour le faire. Un mot au chapitre... Alors, juste encore une petite chose, au verset 52, il y a juste... Ce qui frappe quand même dans ce discours d'Étienne, dans tout le chapitre 7, c'est qu'il ne parle jamais du Seigneur Jésus. Il parle de l'histoire passée d'Israël, il parle de ce que l'Éternel a fait pour son peuple, comment le peuple a réagi, les murmures qu'il a pu proférer. Mais il ne parle pas du Seigneur Jésus, il ne parle pas du Sauveur, il ne parle pas de l'œuvre de la croix. Simplement, ici, au verset 52, ils ont tué ceux qui ont prédit la venue du juste. C'est ainsi que le Seigneur est nommé dans ce discours d'Étienne, celui qui est le juste. L'apôtre Pierre avait pu dire au chapitre 3, en s'adressant au peuple aussi, il avait pu dire, vous avez mis à mort le saint et le juste. Le saint et le juste. Et là, et ce qui est frappant, c'est ce « ij » majuscule qui ne laisse aucun doute, n'est-ce pas, sur la personne qui est désignée par ce vocable « juste ». Ils ont prédit la venue du juste, le juste par excellence. Il est souvent parlé du juste, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Le juste, ce titre de juste avait un rôle très important parmi le peuple juif. Mais là, c'est « ij » majuscule, on voit bien qu'il s'agit du Seigneur. Et alors, au chapitre 22, juste lui encore quelques versets. Au chapitre 22, on a vu que c'était l'apôtre Paul fait son apologie, et puis il rappelle cette rencontre qu'il a faite sur le chemin de Damas, quand il a été converti. Il a vu le Seigneur dans la gloire, le Seigneur qui lui répondait à sa question, Paul avait demandé, Saul de Tarse avait demandé, « Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. » Et puis, après, Paul reçoit un ordre, il doit aller dans la ville, et là, il y a un homme qui va le rencontrer, c'est Ananias. Ananias. Et cet homme qui avait été préparé, qui était là, non pas à Jérusalem, qui était à Damas, c'était probablement un juif pieux, qui était là, qui vivait croyant, qui vivait là, et il dit, « Le Dieu de nos pères t'a choisi d'avance pour connaître sa volonté et pour voir le juste et entendre une voix de sa bouche, car tu lui seras témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Pour voir le juste. » Ananias était là, un serviteur qui était prêt à rendre le témoignage qui lui était demandé. L'apôtre Paul hésite, n'est-ce pas ? Il dit, mais comment ça se fait, Seigneur ? Ils savent que je m'étais en prison et que je battais dans la synagogue ceux qui croient en toi. Et lorsque le sang d'Étienne, ton témoin, fut répandu, moi-même aussi j'étais présent et consentant. Et je gardais les vêtements de ceux qu'il tuait, c'est ce qu'on vient de voir à la fin du chapitre 7. Il consentait à sa mort. Ce que je voulais juste remarquer en terminant, c'est qu'à Ananias, il est dit qu'il devait dire à Saul, « Le Dieu de nos pères t'a choisi d'avance pour connaître sa volonté et pour voir le juste. » Je crois que c'est les deux seules occasions où on voit que le Seigneur, on voit ce nom du Seigneur, qui est mentionné, ce nom de juste, avec ij majuscule. Que ce soit en acte 7, ou que ce soit ici en acte 22, on voit qu'il est parlé du juste avec ij majuscule. Pour une pensée à propos d'Étienne. Étienne était là au moment voulu. Le Seigneur l'a appelé à rendre ce témoignage magnifique de tout le chapitre 7. Il a été là, serviteur fidèle, serviteur à son poste, il a délivré le message que le Seigneur lui disait de délivrer. Ananias, personne ne le connaissait, c'était un citoyen de Damas, il vivait là, mais il avait été préparé par Dieu pour rendre service à ce serviteur, à Saul de Tarse, qui allait devenir l'apôtre Paul, et pour l'encourager, pour l'enseigner, pour le guider, pour être un peu son conseiller spirituel au début de sa carrière chrétienne. Et c'est magnifique de voir ces deux serviteurs. Ils n'ont suivi aucune école théologique, n'est-ce pas, rien, aucune formation théologique. Ils dépendaient de Dieu, que ce soit Étienne, que ce soit Ananias. Ils ont été là, ils ont été prêts pour le service que le Seigneur leur demandait. À la fin, Ananias est mort. Non. Étienne est mort, il était lapidé, et puis à la fin, quand Ananias est intervenu, il a disparu, la parole n'en parle plus, mais c'était des serviteurs qui étaient là, au moment voulu par Dieu, pour rendre Un magnifique témoignage. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'immenses organisations, de trucs qu'on fait à droite et à gauche, des immenses réunions, etc., pour enseigner les jeunes, pour enseigner les plus âgés. Bon. Mais attention, attention. Il ne faut pas mépriser ces serviteurs qui sont là, qui ont rempli leur tâche, leur ministère. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur. Ils sont là, ils ont répondu à l'appel de Dieu, et ensuite, ils disparaissent. Un serviteur doit toujours rechercher l'ombre. Jamais la lumière. Enfin, entendons-nous bien, il doit vivre dans un chemin de lumière devant Dieu, bien entendu. Il ne doit jamais chercher les projecteurs, jamais jouer un rôle important parmi les croyants. Non, un serviteur, il est appelé quelque part, il donne le message que Dieu lui, donne, lui demande de donner, et ensuite, il disparaît. Eh bien, que ces exemples, n'est-ce pas, qui nous sont donnés dans l'Écriture, ne sont pas donnés là pour rien, puissent parler à nos cœurs.